Bonjour et bienvenue sur Plan B. Aujourd'hui, je reçois pour la deuxième fois Vincent Liégé. Bonjour Vincent.
Bonjour Cyrus.
Alors, tu es là pour nous parler de tout un tas de choses dont ton livre, coécrit avec la journaliste Isabelle Brockmann,
Que je salue.
Sobriété, la vraie. Tu vas nous expliquer ce que c'est que la sobriété, la fausse, et c'est quoi la sobriété, la vraie. Mais on va aussi un peu réagir sur la place que prend la sobriété, ainsi que la décroissance, dont tu es expert depuis, je ne sais pas si c'est 10 ans ou 20 ans, mais en tout cas, tu es
Quinzaine d'années maintenant, ouais.
quinzaine d'années, voilà, donc précurseur en la matière, donc tu as un regard avec particulièrement beaucoup de recul sur la question. En quoi c'est en train de pénétrer la société? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce qu'il y a une réactance et donc des réactions hostiles, des affrontements autour de ça? Comment est-ce que la société est en train de se cliver entre, on va dire, ceux qui veulent renverser la table versus ceux qui veulent que rien ne change? L'actualité est assez brûlante à ce sujet, mais on va essayer de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Et au final, beaucoup de phénomènes dont on témoigne, que tu avais quelque part anticipé. Mais on va y revenir. Que dire d'autre? Bah, pour soutenir notre émission, vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube, suivre le podcast, liker, partager avec vos amis. Éventuellement, soutenir mon travail de créateur de contenu sur ma page Tipeee où j'essaie de me rémunérer modestement. Sans plus tarder, Vincent, c'est quoi la sobriété la vraie et c'est quoi la sobriété la fausse?
Alors, je ne pensais pas faire un livre un jour sur la sobriété, puisque moi, je m'intéressais surtout à la décroissance, mais les deux sont intimement liés, mais je ne pensais pas faire un livre titré Sobriété. Et c'était une commande par notre éditrice, à Isabelle, Isabelle et à moi, à la suite du fameux discours d'Emmanuel Macron à la fin de l'été dernier, où on sortait à la fois d'une canicule historique, de sécheresse historique, où pour la première fois peut-être en Europe, on a vécu dans nos chairs ce que signifiait le réchauffement climatique de manière tout à fait inquiétante. Et on l'a vécu aussi à travers des incendies, à travers un certain nombre de phénomènes météorologiques des plus inquiétants. Mais surtout, c'était une manière de récupérer un thème qu'on ne pouvait plus ignorer de la part du gouvernement et de la part de l'oligarchie financière, dans une période où aussi s'accéléraient d'autres enjeux qu'on avait prédits, qui étaient prévisibles, qui étaient déjà en cours et qui ont été accélérés avec l'agression de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine le 24 février de l'année dernière, et qui a créé une tension sur l'approvisionnement, à la fois sur les énergies fossiles, pétrole et gaz, indirectement aussi un peu sur le charbon, et puis des tensions sur un certain nombre de ressources avec une période post-Covid où un grand nombre de chaînes de production, de chaînes logistique était soit à l'arrêt, soit encore en souffrance. Donc la sobriété, qui est un joli mot, qui est un concept très ancien, en fait, c'est plutôt notre société occidentale qui a oublié cette évidence que pour être libre et heureux, il faut savoir s'auto-limiter. C'est un peu l'histoire du gamin de 5 ans qui très vite comprend que s'il mange des glaces du matin au soir, eh bien, il va finir par vomir, il va finir par être malade. Notre civilisation occidentale, organisée autour de la croissance, a oublié cette évidence où par le passé on parlait de tempérance, il y a un certain nombre de mots, de concepts merveilleux autour de la sobriété qu'on va retrouver dans l'histoire des civilisations, depuis que l'Homo sapiens sapiens vit, et comment on s'auto-institue des limites. Et donc ce sujet a été réapproprié pour surtout faire le contraire. Juste deux exemples. Au-delà du discours d'Emmanuel Macron, un discours très, très fort qui parle de rupture paradigmatique, de rupture
Fin de
civilisationnelle, c'est la fin de
l'abondance,
l'abondance.
on s'est dit,
Exactement, tu vois,
on a gagné la bataille culturelle, tout va bien.
Exactement. Et puis dans la foulée, il y a sa première ministre qui a invité avec un joli col roulé, alors qu'il fait encore très chaud, on n'est pas encore dans l'hiver. D'ailleurs, on n'a pas eu vraiment d'hiver en Europe cet hiver, ce qui est tout à fait inquiétant. Et Elisabeth Borne qui nous explique, attention, la sobriété, ça ne veut surtout pas dire faire moins. Ce n'est pas la décroissance, donc si ça ne veut pas dire faire moins, qu'est-ce que c'est? Et puis, une sortie de M. Roux-de-Bézieux, président du MEDEF sortant, qui dit, mais la sobriété, c'est super. Et donc, maintenant, on va faire de la croissance sobre. Donc, on est encore dans toute cette continuité de mots vidés de leur sens, de slogans réappropriés, cooptés par un système dominant qui, soi-disant, s'empare des sujets de société pour faire exactement le contraire de ce que ces mots signifient. Et c'est d'autant plus intéressant, c'est que la société française n'a pas attendu Emmanuel Macron, de manière générale, le monde occidental n'a pas attendu Emmanuel Macron pour s'emparer avec sérieux de cette question-là, puisqu'on observe depuis quelques années déjà, et les études convergent les unes après les autres, que les gens se sont emparés d'une vraie sobriété, c'est-à-dire qu'ils ont changé leurs habitudes de vie, leurs représentations, leurs habitudes de consommation, pour consommer moins mais mieux, pour partager plus, pour repenser son rapport au voyage, son rapport au temps, son rapport aux autres. Et donc, ça nous a paru, à la demande de notre éditrice, ça nous a paru, ce qui m'a un peu pourri mon automne, parce que je n'avais pas prévu de faire ça, mais de bosser rapidement sur ce livre, ça nous a paru une évidence, bah, de recadrer un certain nombre de choses, parce que là aussi, la sobriété, la fausse telle que portée par le gouvernement et un certain nombre de messages publicitaires est porteuse d'une forme, la fin de l'abondance, de quelque chose de négatif, quelque chose d'imposé, qui plus est quelque chose qui serait temporaire le temps que la crise passe et on retrouverait après l'hubris de la surconsommation et de la croissance pour la croissance. Alors que je crois, et par expérience aussi, vu que j'ai la chance de vivre dans une coopérative où on l'expérimente au quotidien, je crois que la sobriété est quelque chose d'émancipateur, peut-être quelque chose de joyeux, à condition qu'on s'en empare politiquement, on s'en empare sur les imaginaires, bien loin de le côté mortifère de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
On a un faisceau d'indices qui suggère qu'au-delà d'un certain seuil, on va dire, de PIB, plus de richesse et plus de consommation n'entraîne pas plus de bien-être, voire ça peut être le contraire. On en a parlé lors de ta première intervention, dont je remets le lien dans la discussion, mais plus de croissance, ça peut aussi être par exemple plus d'embouteillage, plus de dettes, plus de stress, plus de consommation d'anxiolytiques, etc. Donc là, on voit que il y a un lien qui est rompu et qu'effectivement, au-delà d'un certain niveau, la sobriété peut être émancipatrice, par exemple en se soulageant de dépenses contraintes, enfin de dépenses qu'on s'est auto-imposées, donc il n'y a pas forcément besoin. Après, j'ai envie de dire, bon, c'est pour les 10% duo, ça dont on parle, mais j'imagine que c'est ton propos aussi. La définition que donne Timothée Parikh de la décroissance, je l'ai pas mot à mot, mais un projet de société plutôt à commencer par les pays riches, évidemment.
Ben, c'est intéressant parce que la sobriété, d'ailleurs, c'est ce qu'on a une longue introduction dans le bouquin qui est plus une forme de manifeste politique autour de la sobriété, qui va plutôt s'inspirer de la pensée de la décroissance, qu'elle rappelle cette évidence, c'est-à-dire que la sobriété doit s'appliquer, si on est sérieux, de manière proportionnelle à son niveau de revenu. C'est assez logique dans une société de consommation régie par ce modèle économique qu'on appelle le capitalisme. Ben, plus on est riche, plus on a d'argent et plus on a de capacité à consommer. Et donc, s'il faut consommer moins, bah, plus on est riche, plus il va falloir consommer moins. Et sobriété sans réflexion sociétale sur une autre forme de partage, sur de la justice sociale, bon, en général, ça se passe mal. Parce que justement, la société de croissance a été un outil qui a permis de repousser à plus tard, toujours repousser à plus tard, la question des inégalités, puisqu'on avait de la croissance. Les plus pauvres pouvaient accepter des inégalités, d'ailleurs croissantes, dans une société croissante, parce qu'il y avait cette promesse que, bon, on va serrer un peu la ceinture le temps d'eux, mais avec le temps, grâce à la croissance, nous aussi, on récupérera des miettes,
Et
nos
puis ils faisaient
enfants
moins
encore
de
plus.
croissance que les autres, mais ils en faisaient quand même.
Voilà, exactement. Donc c'était un peu ce pari. Mais si on parle de la fin de la croissance, qui est aujourd'hui à la fois aussi nécessaire qu'inéluctable, et puis je dirais aussi désirée que désirable, on pourrait y revenir. Si on parle de la fin de la croissance, ça doit passer nécessairement par un projet extrêmement ambitieux de redistribution, de partage, de mise en commun. C'est-à-dire que l'enjeu de la sobriété ou de la décroissance, c'est bah, c'est de produire beaucoup moins, de réduire de manière extrêmement forte dans les sociétés les plus riches, les modes de vie des plus riches, notre empreinte environnementale pour redescendre en dessous de seuil de soutenabilité. Mais ça veut dire surtout de le faire de manière beaucoup plus intelligente, de le faire de consommer moins mais mieux, et de mettre en commun beaucoup plus et de partager beaucoup plus. Et c'était l'un des premiers écueils pourquoi sobriété la vraie, c'est-à-dire que la sobriété telle qu'elle était présentée, elle était culpabilisatrice et elle préparait quelque part culturellement les plus pauvres à accepter une forme d'austérité imposée, alors que nous, la vision qu'on a avec Isabelle de la sobriété, c'est une opportunité pour enfin vivre dans des sociétés beaucoup plus justes. Donc la sobriété, c'est se serrer la ceinture quand on est très riche, ce qui ne veut pas dire qu'on sera plus malheureux, on va changer son mode de vie, et c'est offrir des espaces de croissance ou des espaces de bien-être, des espaces d'autodétermination, des espaces de liberté pour les plus précarisés dans cette société. Naturellement, les pays du Sud, on va aller piller les ressources qui permettent aux pays du Nord de subvenir de subvenir à un mode de vie non soutenable, mais aussi on se rend compte qu'aujourd'hui les inégalités, à la fois en termes d'empreinte écologique et de consommation, sont aussi pas uniquement présentes entre le nord global et le sud global, pour prendre deux notions assez simplificatrices, mais elles sont aussi présentes dans l'ensemble des sociétés aujourd'hui. Donc ça pose la question des inégalités, comme le rappelait notre slogan, la première des décroissances doit être celle des inégalités.
Un point majeur qui, malgré on va dire le greenwashing, le sobriété washing que tu as évoqué tout à l'heure, des notions comme la sobriété, la décroissance, l'agroécologie, même l'écologie tout court, sont prises beaucoup plus au sérieux dans les milieux, dans tout un tas de milieux institutionnels, je sais pas, partis politiques, médias, enseignement supérieur, entreprises. Je le constate au quotidien, on voit que l'air du temps a quand même changé. Il y a plein d'indications au-delà du vécu de chacun dans son entreprise ou que sais-je. Alors certains vont dire non, non, je me fais des idées, etc., parce qu'ils ne le vivent pas dans leur quotidien. Et d'autres me disent, mais non, mais clairement, il y a une prise de conscience dans mon entreprise, etc. Bon, on pourra y revenir. Voilà, il y a aussi d'autres indications, je vais dire bêtement, le nombre de followers de bons potes ou de Jean-Marc Jancovici sur LinkedIn. Voilà,
C'est des
c'est
superstars,
une
ça.
indication. C'est une indication. Ils ne se font pas troller, etc., par des croissancistes. Ils sont défendus par le monde professionnel. Et limite, j'ai l'impression, à en croire LinkedIn, les décroissants auraient même gagné la bataille culturelle. Bon, quand on regarde le nombre de réactions et des arguments de part et d'autre, enfin voilà, on est dans un autre contexte qu'il y a ne serait-ce 5 ans. Quel regard tu portes d'abord là-dessus, puis on va venir aux affrontements aussi, mais d'abord sur là où on a gagné du terrain, entre guillemets.
Alors c'est intéressant parce que si on a eu la même discussion il y a 5 ans, j'aurais dit je vois des signaux faibles qui me laissent penser qu'on assiste ou qu'on commence à assister à une transformation silencieuse de la société. C'est d'ailleurs le titre d'une chronique que j'avais signée dans Reporter il y a je crois que c'est en 2015 ou 2016, donc ça date déjà, ce qui m'avait valu pas mal de critiques. Les copines, les copains à l'époque qui se sentaient très isolés se moquaient un peu de moi. Mais on voyait la décroissance qui était au départ cloisonné à des milieux plutôt politisés, plutôt certains milieux universitaires, activistes, intellectuels qui s'étaient emparés de toutes ces questions autour des limites physiques à la croissance, mais aussi autour des limites culturelles à la croissance. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, le paradoxe d'Hesterlin, comment la croissance au-delà d'un certain niveau n'est plus efficace à créer du bien-être, du vivre ensemble. Il suffit de regarder BFM TV pour voir à quel point notre société de surabondance frustré génère du mal-être et non pas de la joie de vivre. Ça, c'est intéressant. Et donc, moi, je commençais à analyser, à observer de manière plutôt intuitive, qui a été très vite confirmée par des premières études qui montraient que, dans un premier temps, non pas des majorités, mais des quantités non négligeables de la société française et de manière générale des sociétés occidentales, commençaient à s'emparer de ces sujets de société, commençaient à comprendre que nous arrivons à la fin d'un modèle civilisationnel qui a des limites à la croissance, qui commençait à prendre conscience sur les impacts environnementaux autour des limites planétaires, en particulier le dérèglement climatique était celui qui a été le plus mis en avant par les mouvements écologistes, ce qui était peut-être une erreur de ne pas l'articuler avec les autres, on pourrait y revenir. Et puis surtout, on commençait à avoir un certain nombre d'indicateurs sur un mal-être autour d'une perte de sens. Je me souviens de la sortie du livre du regretté David Graeber sur les bullshit jobs qui avait fait un gros buzz, perte de sens au travail, et puis des sociétés toujours plus épuisantes, ce que tu évoquais tout à l'heure aussi. Le progrès nous promettait à travers l'innovation technique d'avoir toujours plus de liberté, de temps libre, etc. Et en fait, plus on déploie de nouvelles technologies, plus on déployait de progrès techniques, plus on se retrouve aliéné. À des prothèses techniques, que ce soit toujours plus de transports qui vont toujours plus vite, mais on doit toujours plus se déplacer. On habite toujours plus loin, donc on passe toujours plus de temps dans le transport. Ou en particulier, quelque chose qui est un phénomène très récent par rapport à l'histoire de l'Homo sapiens sapiens, notre civilisation qui a une quinzaine d'années, l'arrivée pour toutes et tous dans le monde occidental, dans nos poches, de ces téléphones dits intelligents, de la naissance d'un certain nombre de plateformes, d'outils dont on dépend pour se nourrir, pour se déplacer, pour les services publics, et puis de plus en plus, ce qui façonne les imaginaires. T'évoquais LinkedIn, qui n'est pas plus vertueux, ou peut-être un peu plus que certains autres, je pense à Twitter, mais qui a ce biais aussi d'enfermer dans des bulles de vérité autour d'algorithmes qui ont été construits pour optimiser les profits publicitaires
Il y
et
a
qui,
plus de
du coup,
recroisement entre les différents mondes, je trouve. Je me sens
il y
vraiment
a un peu
enfermé
plus
dedans.
sur LinkedIn, c'est peut-être le moins pire actuellement. Mais...
Et puis, quand même, on a la place pour argumenter tout
Non,
ça. Et
c'est
moi, je vois
sûr que
souvent passer des choses avec lesquelles je ne suis pas
c'est
d'accord. Et
sûr que
bon.
c'est pas aussi caricatural que Twitter. Et donc, moi, j'observais que bon, je commençais à être invité pour parler de décroissance dans des milieux où j'étais persona non grata. Enfin, pour simplifier, je suis passé à faire de la désobéissance civile en m'enchaînant sur les chaînes des portes d'entrée des grandes écoles ou d'entreprises ou d'institutions publiques qui aujourd'hui vont venir inviter des gens comme toi, comme moi, comme beaucoup de nos collègues pour discuter avec sincérité de ces sujets de société. Alors, on n'est pas toujours invité officiellement par les institutions, ou par les entreprises ou par les écoles, mais à l'intérieur de toutes ces grandes entités qui organisent notre société, des citoyennes et des citoyens se posent des questions. Et au départ, naturellement, ça a commencé plutôt avec les plus jeunes. Ça a commencé aussi avec des boomers, pour reprendre une expression à la mode, qui étaient challengés à la maison par leurs plus jeunes à la maison. Enfin, moi, j'ai les premières invitations que j'ai eues dans des grandes entreprises multinationales, c'était des cadres dirigeants de multinationales qui ne comprenaient pas ce qui se passait dans la tête de leurs filles devenues écoféministes, qui les accusaient de patriarcat, d'être un salaud de capitaliste qui exploite, qui détruit la planète, qui roule en 4x4 et qui prend l'avion pour aller chasser et manger de la viande, ou qui ne comprenaient pas ce qui se passait dans la tête de leur fille ou leur fils qui quittait Polytechnique pour aller faire un stage à Cargonomia dans notre coopérative décroissante à Budapest ou aller élever des chèvres dans le sud de la France. Donc, je commençais à avoir ces petits signaux faibles, et puis ensuite, l'ouverture à des enseignements dans les grandes écoles. Moi, je suis ingénieur de formation, donc avec des écoles d'ingénieurs, l'ouverture à des projets de recherche officiels. À l'époque, ça existait déjà, mais c'était vraiment très à la marche. On faisait ça un peu en se cachant, de changer le titre, l'intitulé de la recherche pour que ça passe et que ce ne soit pas bloqué par l'institution. Et puis, depuis 3-4 ans, un véritable rouleau compresseur, confirmé par toute une succession d'études sociologiques année après année. Juste pour en citer deux, la première qui est assez amusante, qui avait été faite par le MEDEF, qu'on ne peut pas soupçonner de décroissancisme ou d'ultra-gauchisme, puisque le mot est à la mode actuellement en France. Qui se désolait, c'était une étude qui était plutôt orientée sur la question du rapport des Français quant à la capacité de l'innovation technique de répondre aux enjeux du 21e siècle, c'est-à-dire les limites planétaires, la raréfaction d'un certain nombre de ressources. Et puis, il se désolait que 57% des Françaises et des Français pensaient que la décroissance était une solution qui était plutôt adaptée à ces enjeux-là plutôt que l'innovation technique. Donc, 57%, c'est la première fois qu'on voyait vraiment une majorité sortir autour de ça. Et qu'est-ce qu'on entendait par décroissance? C'est partage, ralentir et bon sens. Ce qui plutôt que d'aller dans une fuite en avant autour de technologies que toi tu critiques aussi beaucoup, hein, qui sont peut-être à déployer, mais qui ne sont en aucun cas suffisantes pour répondre aux enjeux de société. Et puis, il y a le dossier de l'ADEME publié en janvier qui enfonce le clou et qui est intéressant parce qu'il articule aussi cette dimension que les prises de conscience sont dorénavant actés. Je crois qu'il y a des consensus très forts, en particulier en France, peut-être moins dans les autres pays européens, mais en particulier en France,
J'ai parfois
sur
l'impression
que...
qu'on est dans une bulle en France aussi.
Ah
Alors,
non, il y a...
en tout cas, aux États-Unis, ce qu'on est en train de dire là est lunaire.
Pas
Ailleurs en
lunaire, mais
Europe, ça
c'est...
peut aller, je pense.
Je veux dire, on va avoir 10 ans de retard peut-être par rapport à ce qu'on a connu en France. Et des gens qui ont pu être critiqués par des mouvements écologistes, je pense à Nicolas Hulot et à Artus Bertrand, qui en fait étaient... On fait un travail d'éducation populaire à des publics très larges, dans un premier temps avec beaucoup de naïveté et sans poser les questions derrière notre modèle économique, la décroissance, le capitalisme, le rôle joué par les multinationales, par la publicité, etc. Donc, ils ne parlaient pas de ça au début, mais ont permis en fait d'ouvrir le terrain. Il y a eu nos amis collapsologues, à qui moi je ferai peut-être la critique, mais une critique tout à fait... amicale et sympathique, et quand peut-être une critique aussi du mouvement médiatique qu'il y a autour de la collapsologie, et pas tant ce qu'ils ont porté comme propos sur le fait que on a fait un travail d'éducation populaire sur le diagnostic en s'arrêtant à mi-chemin, c'est-à-dire qu'on n'a pas allé plus loin, qui a créé une forme d'éco-anxiété, notamment chez les plus jeunes, mais qui a permis en fait de créer toute une dynamique de transformation des imaginaires, accélérée par le Covid. Je crois que le premier confinement, en fait, qui était le seul vrai confinement qu'on a eu. Le premier automne du début de la pandémie, le premier printemps du début de la pandémie en 2020, où les gens se sont retrouvés, pour celles et ceux qui n'avaient pas des boulots essentiels, se sont retrouvés à la maison avec les gamins, ont découvert les joies du télétravail, ont surtout découvert qu'ils pouvaient s'arrêter de bosser, que la société
Et que
continuait
ça n'a
sans eux,
aucune
ça a été un
conséquence,
choc.
la Terre continue de tourner. Ouais,
Exactement, on se
je
souvient de tous
parle
ces
de mon vécu.
slogans, il n'y aura plus de retour au monde d'avant, vraiment des prises de conscience très fortes sur je vis une vie de con et je veux sortir de ça, qui donne, alors on critique un peu nos amis états-uniens qui ont peut-être un peu de retard sur ces questionnements-là, où ils font leur cheminement différemment. Et moi, pour avoir vécu aux États-Unis, c'est extrêmement surprenant, voire déroutant, de voir la grande désertion dans un pays où le travail est une culture centrale. Et quand on parle alors, des ordres de grandeur, autour de 30% de désertion du monde du travail dans un pays comme les États-Unis, à la suite du Covid et d'une prise de conscience, je veux avoir une vie riche de sens. Alors, qui dit quitter le travail, donc l'emploi rémunéré, ne veut pas dire qu'on ne se réapproprie pas des activités riches de sens, mais qui vont prendre d'autres formes, qui vont s'organiser autour de quelque chose de non marchand. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, il y a eu ce phénomène accélérateur, et puis après, toute une succession d'événements, de la démission de Nicolas Hulot, très médiatisé et très juste dans son propos sur France Inter, de mouvements comme les Gilets jaunes, rejoints par les Gilets verts, la Convention citoyenne pour le climat qui a permis de sortir par la démocratie d'un cercle de violence qu'on retrouve aujourd'hui en France, un cercle de violence qui a été construit par un choix répressif par le gouvernement d'Emmanuel Macron déjà à l'époque, comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis, naturellement, c'est beaucoup plus facile de faire comprendre aux gens ce qu'est le dérèglement climatique quand on se prend des canicules comme l'été dernier, qu'à travers ce que tu peux faire dans ton quotidien ou ce que j'ai pu faire depuis une quinzaine d'années, des conférences, des bouquins, des articles universitaires, des courbes. L'être humain est ainsi fait que le cerveau et le rationnel n'est pas toujours suffisant à engendrer des transformations. Et là, aujourd'hui, on a cette situation où les prises de conscience sur les enjeux environnementaux sont quand même très présents. Cette prise de conscience sur la perte de sens de nos sociétés est très forte, sur un certain malaise par rapport à l'explosion des inégalités. Je trouve que c'est très présent, notamment chez les jeunes qui sont issus de familles plutôt privilégiées. Ça, c'est intéressant, c'est peut-être très nouveau dans l'histoire du capitalisme, où même ceux qui sont issus des familles les plus privilégiées, une grande partie d'entre eux va questionner ces inégalités de manière assez forte. On voit par exemple des héritières ou des héritiers qui refusent leur héritage d'un grand groupe industriel, etc. Alors c'est peut-être minoritaire, mais c'est une fois de plus des signaux faibles qui montrent
Ça
qu'on est à
existe.
la fin d'un modèle par un modèle civilisationnel et ainsi de suite. Et le rapport de l'ADEME, juste un chiffre, hein, il y a des tas de chiffres, 70, 80, 90% des gens qui disent la publicité, faut arrêter, il faut sortir de la consommation de masse,
Plus
etc.
de
Mais moi,
80% qui faut arrêter l'élevage intensif. Je ne sais pas
c'est
ce qu'ils se
ça.
rendent compte que ça veut
Et il y en
dire
a un, moi,
manger
qui me
beaucoup moins
plaît
de
beaucoup,
charcuterie,
c'est.
beaucoup moins d'œufs, mais enfin, bon, après, traduire les intentions en concrètement ce que
Alors,
ça.
on est complètement dans des aspirations, ce qui est très, très loin d'être suffisant, mais je trouve que l'ADEME, dans son dossier, et moi, déjà à l'époque, je parlais de gens qui aspirent à sortir du système dominant. Et je vais préciser après, mais tu as ce chiffre merveilleux qui, moi, me plaît beaucoup. Et ceux qui m'avaient violemment critiqué ou qui m'avaient raillé à l'époque où je parlais d'une transformation silencieuse de la société, je ressors qu'il y a un chiffre vertigineux qu'il faut toujours prendre avec prudence, mais c'est un ordre de grandeur comme un autre qui est quand même un indicateur assez significatif, qui est 93% des Françaises et des Français qui aspirent à rompre totalement ou partiellement avec le mythe de la croissance infinie. Et là, on parle de 93%, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une transformation paradigmatique. Il y a 10 ans, on aurait fait la même étude, les gens n'auraient même pas compris, la grande majorité n'aurait même pas compris de quoi on parle, quelle est la question. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, mais qui montre aussi que nous vivons face à des contradictions extrêmement fortes. C'est-à-dire que d'un côté, on aspire à rompre avec ça, mais on reste à la fois, pour beaucoup d'entre nous, on en parle beaucoup dans notre livre avec Isabelle Brockmann, que la sobriété individuelle est très loin d'être suffisante, et en plus, nous sommes toutes et tous assez inégaux quant à notre capacité à faire un pas de côté, à nous réapproprier nos consommations, nos échanges, nos partages. Ça demande du capital culturel, du capital social, capital économique pour peut-être prendre le risque de quitter son bullshit job et d'aller vers autre chose. On est contraint par rapport à l'emprunt, l'emprunt pour ses études, l'emprunt pour son logement, l'emprunt pour sa voiture dont on a besoin pour aller bosser, son boulot dont on a besoin pour financer sa voiture et ainsi de suite. Donc, ça montre qu'on est face à des contradictions. La publicité renforce ces contradictions, les médias dominants renforcent ces contradictions, et que derrière doit s'engager des processus sociaux. Et ce qui est intéressant Et là, c'était une intuition qui était très forte dès le départ dans le
Ouais,
mouvement de la
on n'a pas
décroissance.
compris si l'avion fallait moins le prendre ou si ça allait continuer à voler, mais avec des biocarburants. Enfin, là, c'est,
Ben,
pour moi, c'est hautement symbolique parce que, bon, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'abord les consommations les plus excessives des plus riches qui doivent diminuer. C'est normal, tant qu'on ne commence pas par, entre guillemets, le superflu, comment demander à d'autres de faire des efforts ou que sais-je. Mais
Et l'avion est un bel
rien
exemple.
que là-dessus, ça bloque déjà, quoi.
Mais l'avion est un bel exemple parce que je pense que toi, comme moi, fais partie des 10% de privilégiés sur cette planète qui ont pris l'avion. Et moi, pendant une grande partie de ma vie, je faisais partie des 1% qui prenaient régulièrement l'avion. Et pour rien te cacher, il m'arrive encore de prendre l'avion pour juste des déplacements où ça me paraît important et que ça fait sens d'un point de vue décroissance de prendre l'avion pour aller colporter la décroissance dans des milieux où justement la décroissance doit être débattue de manière assez forte.
Oui, parce que tu habites en Hongrie et travailles en France, je pense que c'est important.
Voilà,
Enfin,
c'est ça. Alors, j'ai la chance, on a fait d'ailleurs une belle émission sur Tiloche Radio, sur le train. J'ai encore la chance de pouvoir voyager en train, mais ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas, et aussi pour des raisons économiques. Mais ça, c'est des choix politiques. D'ailleurs, on a un coup de gueule sur la question de l'avion et du train, et le voyage de manière générale dans le livre Sobriété. Parce que la décroissance, ça ne veut pas dire la fin du voyage, mais au contraire, la réappropriation du vrai voyage à travers une logique de ralentir et de rencontrer vraiment ce qu'on. Et on peut partir dans des voyages au long cours, avec une empreinte carbone tout à fait dérisoire à travers le vélo, le train, le bateau à voile, mais dans des temps beaucoup plus longs et en s'installant peut-être à chaque étape du voyage avec les gens, en participant à la vie locale, en découvrant les produits locaux et ainsi de suite. Bon, c'est une petite parenthèse. Non, et je reviens au rapport de l'ADEME. Ce qui est intéressant, c'est qu'il confirme aussi ce qui était une intuition dès le départ dans le mouvement de la décroissance. On disait la décroissance ne pourra avoir lieu telle qu'on la prône qu'à deux conditions. La première, c'est qu'elle soit portée démocratiquement. Et on le voit par rapport aux contradictions qui sont les nôtres aujourd'hui. Il y a une aspiration extrêmement forte à sortir de ce modèle civilisationnel, mais de le faire de manière démocratique, comme on a pu le voir, les résultats intéressants autour de la Convention citoyenne pour le climat, autour de délibération citoyenne, c'est-à-dire que la démocratie, ce n'est plus aller voter, mais c'est de réinventer de nouveaux processus où on dégage aussi du temps, donc de l'argent, pour que les gens puissent participer à tout ce questionnement de. Ben, de quoi avons-nous vraiment besoin et comment on y répond de manière soutenable et de manière désirable? Et la deuxième chose, à condition, la décroissance est souhaitable, à condition qu'elle soit mise en place de manière juste et qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle doit s'appliquer d'abord aux plus riches et logiquement, elle doit s'appliquer aussi avec un accompagnement. C'est-à-dire que la logique de la décroissance, ce n'est pas aller dire. Aux personnes qui travaillent aujourd'hui dans l'aérien, écoute Coco, tu t'es planté quand tu as commencé ta carrière, game over, tu te retrouves au chômage et tu te débrouilles. C'est comment on réfléchit sociétalement à un accompagnement, à une reconversion professionnelle, à une reconversion aussi culturelle, parce que ça peut être violent quand on a un métier qu'on aime, du jour au lendemain de s'entendre dire que c'est fini. Donc comment on accompagne ça aussi avec bienveillance, avec intelligence collective, vers de nouveaux imaginaires et vers de nouvelles activités, de nouveaux modèles économiques, un nouveau rapport au travail, et ainsi de suite.
Très bien. Je vais ressortir une citation, une de mes préférées, pour faire une transition sur la suite. Donc, c'est un syndicaliste américain, Nicolas Klein, en 1918, qui citait ça, avec un truc probablement aucun rapport avec l'écologie, mais en tout cas, on l'a prêté à Gandhi, on l'a prêté à Trump, je sais pas quoi. Bon, à la source, d'abord, il vous ignore. Donc, effectivement, il y a eu cette phase sur l'écologie. On s'en fout. Enfin, je sais pas, années 90, j'avais pas l'impression que c'était. Bon. Ensuite, ils vous ridiculisent. Ah bah oui, le changement climatique, tout ça, c'est des trucs de bobos, etc. Enfin bon, on n'a pas trop allé chercher jusqu'au fond, mais tout ça, c'est des trucs d'écolo, etc. Bon. Et après, ils vous attaquent et veulent vous brûler. Mais ensuite, ils vous construisent des monuments. Alors, je pense qu'il manque un. Et après, ils commencent à vous prendre au sérieux. Mais effectivement, il y en a qui prennent au sérieux. Et il y en a qui ont une certaine réactance envers l'écologie. Donc des réactions hostiles et à la conclusion, mais ensuite ils vous construisent des monuments. Moi je ne sais toujours pas quoi penser entre est-ce qu'on va nous construire des monuments ou est-ce qu'on va nous pendre ou nous torturer dans un goulag, quoi. J'exagère un petit peu. Tout ça pour dire que, bon, jusqu'en, je sais pas, 2019-2020, dans les discussions que j'avais au sein des milieux, etc., j'avais un peu ce discours à dire aux gens, vous inquiétez pas. Si on est convaincu de ce qu'on pense, alors bah voilà, le changement climatique va faire la pédagogie nécessaire, il y aura des crises de l'eau, l'énergie, pas, bah, il y aura des soucis d'énergie, enfin voilà, ce sera juste irréfutable. ce sera évident. Et je dirais pas, tout le monde va nous dire pardon, vous aviez raison, mais voilà, on va commencer à passer aux choses sérieuses. Alors avec le recul, je pense que ce n'est qu'à moitié vrai. Déjà, pour plein de raisons, on voit une espèce d'explosion du climato-négationnisme depuis l'été dernier, alors qu'on se dit, mais non, mais qu'est-ce qui reste à prouver, quoi? Qu'est-ce qui reste encore à prouver? Enfin, ce que le GIEC avait dit se réalise. Enfin, c'est pas le GIEC qui avait dit, c'est la communauté scientifique dont le GIEC fait la synthèse. Peu importe. Bon. Ça se réalise. Qu'est-ce qui reste encore à démontrer? Ben non, ils trouvent toujours des failles, etc. Je sais pas. Bref. Donc il y a quand même ça, c'est complotisme, désinformation, etc. Ce qu'on veut. Bon. Ensuite, bon, il y a ceux qui reconnaissent effectivement qu'il y a un problème, mais au niveau des solutions, c'est soit de la maladaptation, soit de la fuite en avant. Bon, là, on se disait, bon, voilà, le climat n'est juste plus adapté à faire pousser du maïs qui est très exigeant en eau l'été. Donc, je ne sais pas quoi, l'irrigation du maïs, c'est la part majoritaire, fortement majoritaire des besoins en eau en été, lorsqu'il y en a le moins. Et ça ne va aller qu'en s'aggravant. Et je me suis dit, bon, bah, là, en plus, c'est quand même, comment dire, une pratique qui, en aval, alimente quasi entièrement une industrie de l'élevage intensif dont on se passerait bien pour des raisons à la fois éthiques et environnementales. Bref. Et en effet, il y en a qui re-questionnent, il y a des conseillers agricoles qui re-questionnent ça, et en même temps, il y en a qui veulent ne rien changer. Ben non, on va mourir, ils ont raison, on va mourir si on n'a plus d'eau, donc on va devoir faire faillite parce qu'ils ne sont pas accompagnés, bon, ou pas prêts. Et donc le fameux sujet des bassines, et Charlène Descolonges, hydrologue, l'expliquera beaucoup mieux que moi en quoi il y a un risque de maladaptation. Bon, ça c'est un exemple. D'autres qui nous préparent carrément la géo-ingénierie solaire, donc on va foutre des aérosols dans la stratosphère pour réfléchir le rayonnement solaire, et les écolo-technophobes qui seront contre, ils condamnent juste l'humanité à périr. Voilà, mais je le vois venir à des kilomètres ce truc-là en fait. C'est d'un côté la fuite en avant technologique en essayant de préserver un maximum le système, et de l'autre côté, bon, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais
Très
encore,
bien.
pardon, je close ce sujet des bassines, mais j'ai vu aussi l'autre jour alors une solution testée en Californie de foutre plein de boules de plastique dans les bassines pour limiter l'évaporation, limiter la prolifération de bactéries, enfin on commence à tomber dans des trucs. Ah, et enfin, dernier point, alors là on est le 4 avril, l'actualité est un peu chaude au niveau de. Dégradation, actes de vandalisme, agressions envers des défenseurs de l'environnement. Voilà les bureaux de l'Office français de la biodiversité qui ont été brûlés. On peut deviner par qui, mais on va pas porter les accusations maintenant. Voilà, ça commence
La
à
journaliste
sentir mauvais.
bretonne dont les roues ont été dévissées pour la deuxième fois sur sa voiture, donc une
Ouais.
tentative de meurtre.
Mais c'est pas si nouveau. Alors effectivement, on franchit encore un palier, mais c'était latent depuis bien plus longtemps que ça. Il y a une série d'articles du Monde qui sort sur, on va dire, les pressions exercées par le complexe agro-industriel en Bretagne. Donc une série de 6 articles. C'est en Bretagne, mais ils auraient pu faire l'enquête n'importe où ailleurs, où ils recueillent
Et
des
surtout
témoignages de
dans
paysans
beaucoup de
qui
pays
se
du
disent
Sud.
victimes de menaces de mort, d'actes de vandalisme sur leurs exploitations, etc., parce qu'ils osent vouloir faire différemment, sortir du système dominant. Et voilà, dès qu'il y a un peu de dissension dans les rangs, voilà, avec des méthodes limite de barbouze. Ben bon. Donc on sent que ça se tend là. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, non, je reviens sur ta phrase de départ qu'on peut aussi. Ouais, tu dis Gandhi, on avait une similaire, Schopenhauer aussi, si je me souviens bien. En fait, elle est très juste avec deux erreurs majeures. La première, c'est que c'est jamais hétérogène dans une société, c'est-à-dire que tu peux avoir ces phénomènes-là dans certains pans de la société ou pas. Et ce n'est pas nécessairement irréversible. C'est quoi? L'histoire nous a montré qu'on peut avoir à un moment donné une avancée sur des choses très, très émancipatrices. Et puis des retours en arrière. Et d'ailleurs, on avait déjà eu un momentum de prise de conscience et sociétale qui allait très loin dans ces questionnements-là dans les années 70, à la suite du rapport, la publication du rapport du rapport Meadows, à la suite des chocs pétroliers, où il y a eu un certain nombre aussi d'évolutions dans le bon sens, et puis après, de nouveau, des retours en arrière, une traversée du désert pour toutes ces idées-là. L'idée de la décroissance, c'est déjà très présent dans les années 70. Toutes ces idées-là, dans les années 80, 90, elles reviennent un peu dans les années 2000. Alors, au début, on est ignoré, on est moqué, on est rejeté. La notion d'éco-terrorisme n'est pas nouvelle. Hein. J'aurais rappelé aux jeunes qui ont peut-être moins de recul que moi, j'ai l'impression, malheureusement, puisque tu parlais de ce qui s'est passé il y a quelques jours à Sainte-Soline par rapport aux répressions policières totalement délirantes. Moi, j'étais à Sivens lorsqu'il y a eu le pauvre Rémi Fraisse et on n'a pas appris. Malheureusement, c'est une double mort pour lui et sa famille qui était tuée par une grenade policière. Et puis, on peut revenir dans l'histoire du passé. Il ne faut pas oublier aussi que ce type de rapports de force violents sont présents partout sur la planète. Alors, il y a un petit phénomène de loupe actuellement sur la France, mais de mémoire, et on corrigera dans l'intitulé de, je ne veux pas dire de bêtises, de la vidéo, mais de mémoire, je crois qu'il y a un militant écologiste qui meurt tous les 2 jours à l'échelle planétaire, en particulier en Amérique latine, dans les pays du
Oui.
Sud. C'est invisibilisé parce que ça se passe loin de chez nous. Donc on oublie un peu ça. Mais il est certain qu'aujourd'hui, en particulier en France, on est face à un momentum politique, alors rattrapé par la contrainte. Malheureusement, ce que l'on avait pu prévoir, on pouvait s'en désoler, on se bat depuis des années pour éviter que l'on change uniquement par la contrainte par la raréfaction d'un certain nombre de ressources, par des ruptures d'approvisionnement dans les chaînes logistiques, etc. La contrainte par le fait de vivre, les sécheresses, par exemple, c'est une contrainte réelle, c'est-à-dire que le physique, donc que l'on a voulu nier avec notre modèle occidental, en voulant dominer la nature, se rappelle à son bon souvenir. Donc ça, ce sont des choses qui font changer de manière extrêmement rapide, mais qui malheureusement ont plus de chances de nous faire basculer vers l'écofascisme que vers une décroissance démocratique et joyeuse. Et donc c'est l'un des enjeux de la décroissance. On avait ce slogan décroissance ou barbarie il y a déjà une vingtaine d'années, qui était le titre d'un livre d'une quinzaine d'années, un livre de Paul Ariès, que je salue. Et aujourd'hui, on est rattrapé par cette vision-là. Et ce qu'on avait pu anticiper, moi j'avais fait plusieurs papiers ces dernières années qui anticipaient ça, c'est qu'on allait avoir un nouveau clivage politique qui allait s'organiser. Et moi je me battais à l'époque avec pas mal de partis politiques en disant il faut l'imposer le plus vite possible parce que c'est le seul véritable clivage politique qui fait sens entre ceux qui prônent ce que j'appelle la décroissance, c'est-à-dire un débat sociétal démocratique sur la fin du modèle civilisationnel dans lequel on est et comment on organise de manière juste, de manière partagée, de manière démocratique, de nouveaux modèles de société, questionnant quels sont nos besoins fondamentaux, comment on y répond de manière écologiquement soutenable, naturellement, de manière souhaitable. Donc c'est ce que moi j'appelle la décroissance choisie, la décroissance soutenable, la décroissance conviviale, etc. Et puis des alliances politiques que moi j'ai déjà pu observer en Hongrie où je vis, qu'on voit se mettre en place de manière tout à fait inquiétante, comme ça a été le cas en Hongrie. En France, où un ventre mou du centre jusqu'à l'extrême droite, conservateur politiquement au sens premier du terme, qui se replie sur un système civilisationnel qui nous amène à sa perte, mais qui refuse ce débat parce que ces personnes-là sont avant tout les perdants d'une remise en question de l'ordre établi. Et on va
Et
avoir des
ils
convergences entre
promettent
une
en quelque
oligarchie
sorte,
financière,
ils vont
entre
promettre le
certaines.
retour de l'abondance, ils vont aussi pointer vers des épouvantails. Bon, jadis c'était les juifs, maintenant c'est à cause des écolos, la crise de l'eau et tout ça, parce qu'ils ne veulent pas de bassines. Bon, on le voit venir un peu à des
Ben on n'est
kilomètres.
pas loin de voir revenir, enfin, on a vu la même chose, hein, les communistes étaient les juifs, et ainsi de suite. Donc on va prendre d'autres formes. L'islamo-gauchisme est une forme de simplification, là aussi, où on va catégoriser des gens sur des choses totalement absurdes, mais qui génèrent, ce eux contre nous, génère potentiellement quelque chose d'extrêmement violent. Et on le voit aujourd'hui dans l'entêtement du gouvernement Macron à ne surtout rien entendre, à défendre un modèle civilisationnel au profit d'une oligarchie financière, au profit aussi d'une classe d'âge. Il y a un enjeu à la fois de classe d'un point de vue économique, mais aussi un enjeu de classe du fait de l'héritage sociétal dans lequel on est, de classe d'un point de vue générationnel, où il y a une génération aujourd'hui qui est arrivée en retraite. Et je ne blâme pas les gens individuellement, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, je préfère préciser pour être très clair, mais qui a vécu les Trente Glorieuses, ou d'ailleurs je renvoie au superbe livre de Christophe Bonneuil et de ses amis sur derrière les Trente Glorieuses, il y avait aussi tout un système d'exploitation, ça n'a pas été les Trente Glorieuses pour tout le monde, mais qui a vécu sur cet imaginaire-là, avec un certain rapport au travail, à l'industrie, aux productivistes, aux consuméristes, qui, de par leur vécu, il faut les entendre, hein, fait sens. Il faut pas, si on avait été à la même époque, même classe d'âge, on aurait vraisemblablement beaucoup d'entre nous, nos auditeurs, vécu dans ce même imaginaire. Et suivi ce même imaginaire, qui aujourd'hui ne comprend pas les questionnements des jeunes générations ou même d'anciens parmi eux qui questionnent de manière tout à fait juste les choses, je ne souhaite pas trop essentialiser, c'est plus des tendances assez générales.
Oui, parce que même chez les jeunes, d'autres sondages
Exactement,
montrent qu'ils
exactement. Il y a
sont
aussi la
pas
fast
si
fashion, il y a
sensibilisés.
aussi ouais. Tout
Cette
à fait.
génération climat, alors il y a peut-être une minorité suractive
Tout à
pour
fait,
les
mais il y aura
questions
peut-être plus
environnementales, mais
d'ouverture d'esprit
sinon.
à aller dialoguer là-dessus. On l'a vu avec des influenceurs qu'on ne soupçonnait pas de s'intéresser aux enjeux des retraites ou de Sainte-Soline, prendre position politiquement, ce qui est extrêmement intéressant. Et donc, une fois de plus, c'est comment on sort d'un cercle de violence dans lequel on est en train de s'enfermer de manière tout à fait inquiétante, avec des représentations qui sont très opposées, avec les réseaux sociaux qui accélèrent ces clivages. Moi, alors j'ai l'impression qu'il y a un effet loupe aussi, parce que si j'ai passé trop de temps ces derniers jours sur Twitter, je n'y vais pas souvent, mais dans ces périodes-là, je vais voir un peu ce qui se passe, ou à regarder des lives de BFM TV. Si on regarde ça, on a l'impression que c'est tout Paris qui est à feu à sang, on a l'impression que c'est toute la société française qui s'entretue, avec une escalade verbale et aussi physique. On évoquait des cas de menaces, menaces de mort. Moi, j'ai plein d'amis dans les réseaux d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise, militants politiques qui aujourd'hui sont menacés pénalement, accusés d'écoterrorisme, fichés S, ou menacés aussi physiquement par des groupes d'extrême droite, de manière réactionnaire. Donc on est sur cette dynamique extrêmement violente qui me désole beaucoup parce qu'en parallèle, comme je le disais tout à l'heure, je crois que si on éteint Twitter, si on éteint BFM TV et qu'on va dans la vie réelle, et même dans des milieux dits ennemis, je mets vraiment des guillemets, c'est-à-dire que dans des milieux dits plus conservateurs, du monde de l'entreprise, de la banque, etc., on va rencontrer des gens
Mais
qui
on
sont
voit qu'il y
prêts
a
à se
matière à
poser les
dialoguer.
questions et dialoguer, et qui le font avec sincérité, avec les limites qui sont les leurs, c'est-à-dire qui sont en général à la tête de grandes institutions dont l'ADN est de faire de la croissance. Et par exemple, ça va être extrêmement intéressant dans ce contexte-là. On va avoir à la mi-mai un gros colloque au Parlement européen, co-organisé avec une vingtaine de députés européens qui représentent l'ensemble des familles politiques qu'on va retrouver au Parlement européen, sauf l'extrême droite, sur 3 jours à Bruxelles, avec une série de tables rondes, de groupes de travail, avec des gens de la Commission, du FMI, des lobbyistes, naturellement tous nos meilleurs chercheurs, penseurs, activistes autour de la décroissance, de la sobriété, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, quand on organise un cadre du débat dans une logique de bienveillance, d'écoute, de respect mutuel, on arrive à faire avancer de manière constructive et démocratique un certain nombre d'idées. Et quand on reste sur la dimension médiatique et la dimension d'enjeux de pouvoir, parce que je crois que dans la stratégie d'Emmanuel Macron, il y a une logique de pouvoir aussi, il n'y a pas uniquement une logique de idéologique, il y a de l'idéologie, mais avant tout du pouvoir, on s'enferme dans une escalade de violence qui est tout à fait inquiétante. C'est l'enjeu central, c'est comment on recrée des espaces de dialogue pour sortir de ces cercles, de ces cycles, de ces cercles vicieux extrêmement inquiétants de l'escalade de la violence.
Oui, et puis qui font pas forcément de bien. Alors, déjà, je voulais dire, s'il vous plaît, vous qui nous écoutez, ne jetez pas des parpaings sur les policiers et n'encouragez personne à le faire, s'il vous plaît. Enfin, ils font un travail difficile. Effectivement, il y a
Mais quand je parle de la
énormément de
violence, elle est
violences policières,
malheureusement,
mais il faut pas. Voilà.
si on prend l'angle des individus, tu as raison de le dire, ça me rappelle un peu cette phrase de Paul Valéry, la guerre est faite par des gens qui se connaissent et décidée par des gens qui se connaissent et qui se parlent, et faite par des gens qui ne se connaissent pas et qui ne se parlent pas. Donc c'est ce qu'on voit aussi bien entre des pauvres Russes qui ne sont pas nécessairement très enthousiastes à l'idée de se faire tuer en Ukraine et des pauvres Ukrainiens qui se font assassiner. Pour les décisions d'un Vladimir Poutine, tous les enjeux géopolitiques qu'il y a derrière la guerre en Ukraine et ce que vivent les gens sur le terrain, c'est un peu la même chose dans les manifestations. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont aller dans la police avec une idéologie d'extrême droite, mais c'est peut-être pas non plus la majorité. Et puis, si je peux comprendre le désarroi d'un certain nombre de jeunes militants qui veulent aller en découdre, c'est une impasse, la violence est une impasse. Et c'est comment on sort de ces cycles de violence. Et malheureusement, si on rentre dans des cercles de violence, bon, en général, c'est les petites gens comme nous qui vont être les premiers à en subir les conséquences physiques. Et on a pu voir à Sainte-Soline avec les 200 blessés, dont parmi certains très gravement, et puis un qui est, je crois, au moment où on parle en ce moment entre la vie et la mort, on lui souhaite un bon rétablissement, c'est-à-dire qu'on va être les premières victimes parce que aujourd'hui, les rapports de force d'un point de vue militaire et répression policière sont malheureusement tout à fait inégaux. Donc c'est comment on évite ce cercle de la violence à travers le dialogue en proposant autre chose, sans naïveté. Moi, je suis fondamentalement non-violent, mais la non-violence ne veut pas dire qu'on ne fait pas de désobéissance civile,
Voilà,
ne veut pas dire
c'est
qu'on
exactement
n'est
ce
pas
sur quoi j'allais te
déterminé.
lancer. C'est éventuellement, je sais pas, des actes de désobéissance civile que tu soutiendrais, je sais pas, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou
Ah
encore
ben moi,
d'autres.
j'étais parmi les gens qui étaient au début de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, hein, lors de l'organisation. C'était l'été 2000. Alors je ne vais pas dire de bêtises, je me plante toujours dans les dates avec l'âge, 2009, avec l'organisation du camp Action Climat qui a débouché sur l'occupation de la ZAD et des débats continus sur la place de la violence, la non-violence. Je suis très, très proche du mouvement BC, avec des gens qui ont aussi créé le mouvement Alternatiba et qui ont toute une réflexion sur la violence, parce que c'est un mouvement qui a connu l'ETA au Pays Basque. Et l'impasse de la violence, et comment pendant plusieurs décennies, ils ont enterré des pères, des frères, des cousins, des amis, avec des résultats politiques très faibles, là où la non-violence peut avoir des résultats politiques beaucoup plus puissants, à condition qu'elle soit organisée de manière intelligente. Et qui dit non-violence ne dit pas, à un moment donné, des actes de sabotage. Je suis favorable à des actes de sabotage, mais qui soient construits collectivement de manière pertinente, intelligente, et tactique, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu de tactique. Puisque derrière la question de la violence et de la non-violence, il y a la question de l'opinion publique. Et d'ailleurs,
Exactement. Quelle
Mediapart,
empreinte ça va avoir sur l'opinion? Est-ce que voilà.
Exactement. Et Mediapart sort un papier où l'histoire se répète malheureusement, qui montre que ce qui s'est passé à Sainte-Soline a été organisé d'une telle manière de la part de Darmanin, qui voulait avoir des images de violence dans le but de tourner l'opinion publique contre les manifestants, alors qu'aujourd'hui, la majorité française est plutôt sympathisante des idées des manifestants. Donc c'est comment intelligemment on utilise ça, sachant que l'histoire nous a montré que s'il n'y a pas de violence du côté des manifestants, en général, c'est les forces en place qui la créent. Donc ne soyons pas les idiots utiles du système
Oui.
en tombant dans les pièges qui nous sont tendus. Une fois de plus, ça ne veut
Il y
pas
avait
dire
les
qu'avec subtilité.
manifestants et il y avait les Black Blocs qui étaient aussi quand même venus en découdre. Donc ça n'a pas
Voilà.
aidé, ni pour la confusion, ni pour l'image du mouvement. Et
Et
ça, c'était du pain béni
trouvons
aussi
le.
pour Darmanin.
Exactement, et trouvons le juste équilibre entre détermination pour exprimer notre colère, un effort collectif avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de pas de côté, beaucoup de subtilité. En général, l'humour, le pas de côté, la finesse, contourner ce que l'on essaye de nous imposer en termes de violence est 1000 fois plus efficace que de tomber dans les pièges de la violence qui nous sont tendus.
Ouais, je sais pas trop quoi conclure de tout
Et
ça. Est-ce qu'on va finir
Je
par...
répète, je suis moi favorable à des actes de désobéissance civile extrêmement fortes, à des blocages, voire à des actes de sabotage, à condition qu'ils soient organisés collectivement de manière extrêmement intelligente et tactique, et en prenant le soin d'être très prudent quant au fait que l'on ne blesse personne, ni soi-même naturellement, mais non plus des personnes en face qui souvent sont tout au sang aliéné et pris dans un système que l'on n'a pas décidé.
Ouais, et taper aussi dans la fenêtre d'Overton par rapport à l'opinion publique. Donc, fenêtre qui, on le dit depuis le début, c'est clairement déplacé. Alors, on peut se plaindre, ça se déplace pas assez vite par rapport à l'urgence climatique ou que sais-je, mais bon, on a ce
Mais il y a un
qu'on a.
momentum, et là, il y a un piège. Hein. Enfin, Macron joue tactiquement le pourrissement en pensant que les images de violence sur BFM TV vont être suffisantes pour ramener tout le monde à la maison. De la même manière, la violence fait que. Aujourd'hui, il faut être extrêmement courageux pour aller dans une manifestation en France avec ses enfants, etc. Alors que les manifestations devraient être des grands moments de convivialité
On aurait pu parler des retraites
entre les
aussi
générations,
dans notre
exactement, ou
échange.
en général, mais même dans les ZAD, hein, en général, contrairement à ce que disent dans les médias dominants, c'est des endroits très festifs où on rencontre des gens de différents milieux, de différentes cultures, où c'est des véritables agora, des véritables forums. Et quand la violence s'immisce là-dedans, on nous prive aussi de ces espaces où, au lieu de vivre dans la paix et dans le dialogue, la démocratie et le débat d'idées, et faire vivre la créativité pour inventer de nouveaux mondes, on se retrouve à devoir se protéger contre du gaz lacrymogène ou dans le panier à salade face à un État répressif extrêmement, extrêmement dur qui arrête tout le monde de manière sans base juridique. Ou à une surenchère de violence qui fait qu'on peut aller jusqu'à se faire tuer, malheureusement.
Concernant les médias dominants, je nuancerais en disant bah, des journaux comme Le Monde, certes, on va dire centre-gauche, France Info. sont plutôt en soutien aux manifestants pacifiques et ont peut-être même plus dénoncé les violences policières que les violences des manifestants, qu'on peut, selon notre opinion, mettre plus ou moins sur le même plan ou dénoncer un camp ou l'autre. Mais bon, ils ont été bon. Et puis même un journal comme Les Échos, semble être plutôt neutre. Bon, tout un tas de choses qui me font dire que tiens, je me
Mais il y a
sens pas
des
trop
basculements.
menacé par les médias. Je sens qu'il y a quand même un certain poids médiatique, entre guillemets, de notre côté. Inversement, et je voulais peut-être clore là-dessus et te faire réagir pour dire, au final, je sais pas quoi conclure de tout ça parce que on a commencé notre échange et t'as plein de chiffres assez convaincants. 70% des Français pensent ceci, 80% re-questionnent cela. Sans aucun doute, j'ai quand même du mal à raccrocher ça avec effectivement ce que disent les différents partis politiques, où à partir du centre jusqu'à l'extrême droite, on ne retrouve pas ces idées-là. Donc où sont-elles passées? Alors que je suis assez convaincu que la société civile, à travers tous les partis, s'approprie ces sujets de sobriété et de décroissance à sa manière. Je pense qu'il y a une certaine manière de penser la sobriété et la décroissance quand on vote Marine Le Pen, même si je vais peut-être pas tout partager, mais je pense qu'il y a aussi des points de convergence sur la société de demain et comment on vivrait demain. Enfin, on fait les mêmes constats aussi peut-être sur les limites planétaires. Bon, bref. Et inversement, me dire, j'ai l'impression que cette extrême droite, en fait, elle va s'allier avec des intérêts industriels. Tant que l'extrême droite était limitée à des questions identitaires, morales, etc., bon, voilà, ça dépassait jamais 40% au deuxième tour. Là, une fois qu'ils commencent à se mettre dans la poche, Bolloré, peut-être d'autres industriels qui promettent qu'on va garder, entre guillemets, nos niveaux de confort, que la technologie va nous sauver et que ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, c'est des ultra-gauchistes, écolos, je sais pas quoi. Enfin, on revient un peu à notre point de tout à l'heure, mais ça, je le sens venir et ça paraît assez dangereux.
Pour réagir de manière conclusive, parce qu'on a déjà été très long, et je te remercie, de manière conclusive à ton propos, que je partage tout à fait. En fait, on a cette dynamique qui est assez déroutante où ça bouge plus vite dans les têtes que ça bouge dans les comportements. Ça bouge plus vite dans les comportements que ça bouge dans l'auto-institution de projets alternatifs, comme j'ai la chance moi, de faire avec Ergonomia Budapest, sa création. Mais on voit, il y a des dynamiques merveilleuses hein, partout en France de coopératives, de réseaux de soutien, d'entraide, d'autoproduction, de partage, de réutilisation, de gratuité, de tout ce qu'on veut. Mais ça va plus vite donc, dans l'auto-institution de modèles alternatifs que dans les entreprises. Ça va plus vite dans les entreprises que dans les institutions publiques. Mais surtout, ça va plus vite dans les institutions publiques que ça va plus vite dans la tête des politiques et dans le système politique tel qu'il est. Et en fait, on a ces violences là aussi, parce que là, dans les aspirations, dans les comportements, dans l'auto-institution, la société va bien plus vite et bien plus loin que ce que les institutions démocratiques sont capables de faire. Et on voit qu'on est très mal armé par rapport à ces institutions démocratiques, qui sont des institutions qui ont été mises en place pour administrer un système, mais pas pour organiser de manière démocratique, une transformation paradigmatique. Et on a pu voir qu'à chaque fois qu'on a fait des pas de côté en faisant preuve de créativité et d'audace d'un point de vue démocratique, la Convention citoyenne pour le climat, là on voit la Convention citoyenne pour la fin de vie, c'est extrêmement intéressant là aussi ce qui s'est passé en termes d'intelligence collective, de délibération citoyenne, sur un sujet là aussi extrêmement complexe. C'est-à-dire que si on met en place un référendum pour ou contre, en France, tout le monde va s'entre-déchirer. Mais si on rentre dans la complexité d'une controverse, qu'on met un cadre de travail de bienveillance, en faisant confiance aux gens, en leur donnant un mandat, etc., on arrive à des conclusions beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus nuancées, beaucoup plus construites, beaucoup plus pensées, et ainsi de suite. Donc on est bloqué par ces institutions. Et l'enjeu, c'est malheureusement, puisque la démocratie telle qu'elle est organisée dans la société, c'est un enjeu de rapport de force, bah, c'est comment dans ce rapport de force inégales sous deux aspects, on fait basculer plutôt vers l'intelligence collective, l'entraide, la démocratie, que les intérêts d'une minorité qui vont nous être imposés par la violence. Et ces deux inégalités en termes de rapport de force sont d'un côté aujourd'hui des majorités en termes de nombre de personnes dans nos sociétés qui comprennent les enjeux du XXIe siècle et qui seraient éventuellement prêtes à basculer vers autre chose, sans être nécessairement toutes d'accord sur qu'est-ce que signifie c'est autre chose. Et d'un autre côté, un rapport de force inégal où tu as une minorité oligarchique qui, dans une société capitaliste comme la nôtre, monopolise l'argent, monopolise les biens, monopolise un rapport de force, puisque cet argent leur permet à Elon Musk d'acheter Twitter et de décider de retirer, par exemple, la bulle bleue de certification au New York Times, de décider quel tweet va être mis en avant ou pas mis en avant, et ainsi de suite, permet à un Bolloré, via ses chaînes de télé, de décider d'avoir cette émission grotesque avec Hanouna et des types qui sont des imposteurs qui viennent parler au nom de la BRAVEM, des violences policières, de faire monter un personnage extrêmement inquiétant comme Éric Zemmour pour la présidentielle, de véhiculer au quotidien ce discours de violence, de haine, et ainsi de suite. Et donc ce rapport de force, il est à la fois celui du nombre, de l'intelligence collective, face à celui de la puissance médiatique, la puissance symbolique, la puissance de la publicité, la puissance des narrations, et la puissance aussi, malheureusement, de la répression militaire et policière. Et l'enjeu pour cette majorité est de refuser ce que l'on essaye de nous imposer, qui est ce piège de l'escalade de la violence, et d'arriver à imposer les bonnes questions, imposer la démocratie.
Merci Vincent. On n'a parlé qu'à moitié, voire un tiers de ton livre. Hein. D'ailleurs, c'était le but d'en parler un petit peu, reprendre
Bah,
certaines
j'aurais pas
idées.
fait un livre, hein. Le but c'est que les gens l'achètent et le lisent. Mais il
C'est
y a
qu'ils le
beaucoup de choses
lisent.
qui vont plus loin par rapport à tout ça,
Surtout,
tout à fait.
voilà, surtout que c'est assez détaillé. Il y a voilà, pas mal de chiffres. C'est un vrai mode d'emploi de comment la sobriété s'applique à tous les domaines de la vie, pas seulement les petits gestes du quotidien, mais aussi dans le domaine politique, dans le domaine économique. Donc c'est assez complet, donc coécrit avec Isabelle Brockmann, on le rappelle. On a touché quelques idées, mais le but c'était aussi de, bah, comme tu dis, faire un pas de côté aussi par rapport à ton livre, réagir un peu
Non.
à l'atmosphère ambiante. Merci en tout cas, c'était très intéressant.
Exactement, et je suis convaincu que tous les écrits hein, sur la décroissance, la sobriété, pas uniquement mes livres, hein, mais il y a vraiment toute une richesse de littérature, et même en retournant dans la littérature un peu plus historique des années 60, 70, qui posait déjà ces questions-là, on trouve énormément de pistes pour justement ne pas tomber dans le piège de la violence, mais parier sur la démocratie pour sortir de l'impasse dans laquelle est notre modèle civilisationnel.
Tes références en la matière, en décroissance, quoi, Nicolas Georgescu Rogan.
Alors, Georgescu Rogan, c'est vraiment les bases physiques. Je dirais, une fois qu'on a lu Georgescu Rogan, après, on n'a plus de temps à perdre à continuer à lire les rapports sur l'imposture du découplage, etc., etc.
Ouais.
Mais je pense plutôt à des gens comme Serge Hattouche, à Ivan Illich, à André Gorz, à Jacques Ellul, à Cornelius Castoriadis, à une Françoise Daubonne sur la question de l'écoféminisme. Donc, il y a peut-être, pour les auditeurs qui sont moins familiarisés à ces écrits-là, renvoyer à la magnifique collection les précurseuses et précurseurs de la décroissance, qui est une série de livres d'une centaine de pages chacun, très peu cher et très pédagogique, qui permet de s'emparer d'une pensée complexe qui nous aide, et je crois que quand je parlais tout à l'heure de subtilité et d'intelligence collective pour contourner le piège de la violence, je crois que la lecture et ces débats-là sont essentiels.
Très bien, merci beaucoup Vincent, à
Merci
bientôt.
Cyrus, à très bientôt.